Donc, Bram Stoker est né le 8 novembre 1847. Alors, on peut dire que déjà pour lui, ça commence très mal, parce que il arrive sur Terre au moment de la grande épidémie, de la grande famine plutôt, qui sévit en Irlande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, la nourriture de base des Irlandais, c'était la pomme de terre. Et en 1845, il y a eu une première infestation de mildiou qui a détruit complètement les récoltes de pommes de terre, donc ça a induit d'énormes difficultés pour la population. Et en 1847, donc l'année de la naissance de Stoker, il y a une seconde épidémie de mildiou, ce qui fait que, à nouveau, toutes les récoltes ont été détruites. Il y a eu à peu près 500 000 personnes qui sont mortes de faim ou de différentes maladies liées à la sous-nutrition. Et il y a eu aussi plus de 2 millions d'Irlandais qui ont été jetés sur les routes et qui ont été obligés de s'exiler, qui en France, en Angleterre et surtout aux États-Unis. Donc Stoker est arrivé dans ce contexte, évidemment sa mère elle-même avait subi certaines privations, et il était de santé très très fragile, si précaire que pendant les premières semaines, on a pensé qu'il ne survivrait pas. Or, heureusement pour lui et puis pour nous, il a quand même surmonté le problème, mais pendant les 8 premières années de sa vie, il est passé régulièrement d'une maladie à une autre, ce qui fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école, et pendant 8 ans, il est resté au lit. Il avait un précepteur qui venait à domicile, et sa seule distraction, en fait, c'était de lire et d'écouter les histoires que lui racontait sa mère. Et ça a été finalement le creuset de son imagination future, parce que, par exemple, sa mère lui a raconté une aventure qui lui était arrivée quand elle était plus jeune. À l'époque, elle vivait dans l'ouest de l'Irlande. Et dans cette région de l'Irlande, il y a eu une épidémie de choléra. Et ça lui a permis à l'époque d'assister à des scènes épouvantables. Il y avait tellement de morts que les fabricants de cercueils n'arrivaient pas à assurer. Donc, on était les trois quarts du temps, il n'était pas rare qu'on mette deux à trois personnes dans le même cercueil, voire parfois qu'on enterre des morts vivants, des moribonds qui n'étaient pas encore passés de vie à trépas, mais qui n'en étaient pas non. Et donc, ça a énormément marqué sa mère, et sa mère lui a raconté ça quand il était enfant. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve cette influence dans le premier livre de fiction que Stoker a publié, c'était en 1882, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Au-delà du crépuscule, et qui est un recueil de nouvelles pour enfants qu'il avait dédié à son fils. Et parmi toutes ces nouvelles, il y en a une qui s'appelle Le géant invisible, et qui raconte justement l'arrivée sur un pays imaginaire d'un fantôme qui est le fantôme de la peste. Donc on voit vraiment que ce que lui a raconté sa mère l'a vraiment imprégné. Pendant longtemps. Donc, pendant que j'y suis, je vais vous présenter la famille. Alors là, c'est Bram Stoker à l'âge de 30 ans. Voilà sa mère. Alors, sa mère s'appelait Charlotte. Elle était très novatrice pour l'époque, parce que c'est une des premières suffragettes. Et elle s'était engagée vraiment dans une lutte pour la défense des filles mères à l'époque. Parce que c'est vrai qu'elle vivait une condition très difficile. Elle n'était pas reconnue en Irlande, puisque c'est un pays qui était très religieux, donc c'était vraiment très très mal vu. Et donc elle a été très choquée par ce genre de choses, et toute sa vie elle a lutté pour la défense des pauvres filles qui se faisaient avoir. Alors ça c'est la mère, ça c'est le père. Alors le père s'appelait Abraham, alors ça c'est important, Abraham comme son fils. Abraham Stoker, lui par contre, c'est un personnage très simple, très humble. La seule chose qui l'intéressait, en fait, c'était de nourrir sa famille, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et il travaillait à Dublin, à Dublin Castle. Dublin Castle, c'est l'équivalent du tribunal pour nous. Et il a fait toute sa carrière là-bas, et son fils Abraham, donc, aurait dû faire comme lui, si ça n'avait pas capoté en route. Alors voilà. Bram Stoker est né à Clontarf. Clontarf, c'est une petite localité en banlieue de Dublin. Et il est né au 15 Crescent Marino. Pourquoi Crescent? Parce que la rue est en forme de croissant. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette maison, au mois de janvier dernier, était en vente sur Internet. Elle était vendue 600 000 euros. Ce qui est assez cher, parce que la maison est toute petite. Donc, ce qui est dommage, c'est que la municipalité, apparemment, s'en est pas du tout inquiétée, mais elle aurait pu monter un beau musée, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on en revient à Stoker. Donc, les premières années de sa vie, Stoker les passe au lit. Donc, il arrive jusqu'à 7-8 ans, il est enfin guéri. Et donc, pendant les 6 années suivantes, il n'y a rien de particulier à raconter puisqu'il a la vie de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 17 ans, une fois guéri, ses parents quittent Clontarf et viennent s'installer dans le centre de Dublin et l'inscrivent à Trinity College. Trinity College, c'est la plus grande université d'Irlande à l'époque, d'ailleurs c'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Et ça va être un tournant marquant dans la vie de Stoker, parce que ça va être la transformation sur tous les plans. Lui, qui était un enfant chétif, va devenir un sportif accompli, ça va devenir un véritable géant. D'ailleurs, on l'appellera le géant à barbe rousse. Je crois qu'il fera 1m98, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis sur un autre plan aussi, lui qui était un enfant timide, il devient un véritable orateur, il va faire partie de la société philosophique de Trinity College, et il va énormément marquer son empreinte, son passage, parce qu'il va être très brillant. Et il va devenir aussi un sportif accompli, il va gagner énormément de compétitions sportives, de course à pied, et évidemment un excellent étudiant. Alors, une chose qui est importante, c'est que son père avait une passion qui était le théâtre. Quand il sera en âge d'aller au théâtre et quand il sera guéri, évidemment, il retournera à l'école. Chaque fois qu'il aura des bonnes notes, sa récompense, c'est de l'emmener au théâtre. Et c'est une passion qu'il a gardée toute sa vie et qui, justement, va complètement modifier son existence. Ce qui se passe, c'est que en 1867, il va au Royal Theatre de Dublin et il va voir une pièce qui est en tournée et qui vient de Londres, une pièce dans laquelle deux comédiens en herbe jouent les premiers rôles. Il y a la comédienne, l'héroïne qui s'appelle Louisa Herbert, qui est une superbe femme rousse, et il y a un comédien qui s'appelle Henry Irving. Alors, contre toute attente, le soir de cette représentation théâtrale, c'est pas pour Louisa Herbert que Bram Stoker a un coup de foudre, c'est pour Henry Irving. Il est complètement sublimé par ce comédien. Et ça va être, sans qu'il le sache encore, marquant pour sa vie future. Alors, ce qui est amusant aussi, ce qui est anecdotique, c'est que le soir de sa découverte de Henry Irving, dans la salle, il y a un autre jeune garçon qui a à peu près le même âge que Bram Stoker. C'est George Bernard Shaw, qui va devenir par la suite l'auteur dramatique que vous connaissez, mais qui aussi va devenir un petit peu l'ennemi du clan Stoker Irving, parce que alors que Henry Irving était vraiment adulé par tout le monde, il avait quelqu'un qu'il n'aimait pas du tout, ben c'était justement George Bernard Shaw. Et donc ce soir-là, tous les deux vont le découvrir. Donc Stoker est donc porté par sa passion pour le théâtre, mais évidemment il continue ses études. Il va s'installer pour la première fois de sa vie, il va quitter la famille et il va s'installer à Kildare Street, qui est juste à côté de Trinity College, et ça va lui permettre donc de pouvoir participer à la vie habituelle de la ville, d'être plus présent. En 1871, c'est une double date importante. Il découvre, c'est la sortie du roman justement dont on parlait tout à l'heure de Sheridan de Fanu, Carmilla. Et Stoker va être complètement transporté par ce livre, il va trouver que c'est un roman absolument génial, il va être fortement marqué, et donc, comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est vraiment le livre qui va en fait inspirer Dracula. Parmi toutes les lectures de Stoker, c'est vraiment celui qui sera le plus important. Et en cette année de 1871, Stoker retourne au théâtre pour voir à nouveau Henry Irving dans une pièce, et il est de nouveau complètement sublimé par le jeu de l'acteur. Alors à tel point que le lendemain, il se précipite, il achète tous les journaux de la ville de Dublin pour lire les comptes rendus. Et malheureusement, il n'en trouve aucun. Donc il rentre dans une rage folle. Il se précipite dans le journal le plus important de la ville qui s'appelle le Dudley Mail, qui curieusement d'ailleurs est la propriété de Sheridan Le Fanu, parce que Le Fanu était non seulement un écrivain, mais il était également propriétaire de journaux. Et donc Stoker fait un véritable scandale, il demande, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'article pour relater la prestation d'Henry Irving. Et le directeur lui dit, c'est tout simple, c'est qu'on n'a pas les moyens de payer un chroniqueur théâtral. Et Stoker a un coup de génie. Il propose sur un coup de dé, je vous fais la proposition suivante. J'écris les articles, mais vous ne me payez pas, et je suis même prêt à les écrire anonymement, au moins je vous assure qu'on parlera des prestations de Berlin quand il vient à Dublin. Alors évidemment, il ne va pas faire que ces articles-là, il va faire des articles sur toutes les représentations théâtrales qui vont se jouer à Dublin. Et donc grâce à ça, il va faire partie de l'intelligentsia de la ville, il va rencontrer les gens les plus importants, et petit à petit, il va devenir lui aussi une petite notoriété à Dublin. Et comme Henry Irving vient très souvent en tournée à Dublin, il est de plus en plus surpris d'avoir des articles dithyrambiques dans la presse. Et un jour, il demande à rencontrer l'auteur de ses articles. Donc, Bram Stoker est présenté dans la loge du théâtre. Et une amitié innée se crée entre tous les deux. Et ils vont rester en contact pendant plusieurs années. C'est-à-dire que chaque fois que Henry Irving reviendra à Dublin, et bien chaque fois, les deux hommes vont se rencontrer. Donc, ça, j'ai perdu encore le mot. Ça, c'est le Trinity College de l'université où Stoker a fait ses études. Et ça, c'est la même Castle où son père travaillait. Et à l'époque, donc, Stoker était encore étudiant, et il va trouver lui aussi un emploi à Dublin Castle, et ce qui implique que par la suite, il devrait reprendre la place de son père et puis rester dans l'administration. Donc là, c'est Henry Irving. Et donc, il rencontre régulièrement Henry Irving. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou là. Alors voilà, en 1876, il y a une date importante, c'est 1876, c'est l'année de la mort du père de Stoker. Et ça, c'est important parce que Abraham s'appelle donc Abraham Stoker, et l'année de la mort de son père, il décide de prendre le surnom de Bram pour laisser le nom d'Abraham à son père, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est vraiment une marque de respect pour son père. Et donc, c'est à partir de cette année-là que Abraham Stoker va devenir Bram Stoker. Ça, c'est un portrait de jeune homme de famille qui est important pour la raison que je vous expliquais. Et donc, en 1876, Henry Irving revient à nouveau à Dublin et il fait une proposition à Stoker. Entre-temps, l'acteur est devenu directeur d'un grand théâtre de Londres, le Lyceum Théâtre. Et le problème qu'il a, c'est de choisir soit il continue sa profession de comédien, soit il dirige lui-même le théâtre. Alors, pour lui, c'est quand même difficile d'abandonner sa profession de comédien. Donc, il fait la proposition suivante à Bram Stoker, c'est-à-dire de... Il lui dit, moi j'ai besoin d'un homme de confiance, de prendre la direction du théâtre, pour me permettre de continuer ma carrière d'acteur, mais au moins de quelqu'un en qui j'ai confiance, sans qu'il s'occupe du théâtre. Alors évidemment, c'est un changement de vie radical pour Stoker, parce que ça sous-entend quitter Dublin, quitter la famille, les amis. Un travail sûr, puisqu'il était dans l'administration, il n'avait aucun souci pour l'avenir. Et donc, évidemment, c'est quand même une proposition qui ne se refuse pas. Et il va arriver à Londres en 1878, marié, en catastrophe. On ne connaissait pas de fiancé, pas de petite amie. Et curieusement, un mois avant de s'installer à Londres pour prendre la direction de l'histoire du théâtre, il vient accompagné de Florence Valcombe, qui est considérée alors comme une des plus belles femmes de Dublin, et qui, quelques mois auparavant, était courtisée par Oscar Wilde, finalement, elle choisira Bram Stoker. Donc, en 1878, c'est vraiment le changement de cap radical pour Stoker, c'est-à-dire qu'il vient enfin à Londres, parce qu'effectivement, il en rêvait depuis longtemps, c'était la capitale où tout se faisait par rapport à Dublin, qui était considérée comme une ville de province. Et il prend donc la direction du théâtre. Alors, c'est une partie assez difficile parce que le théâtre à l'époque végétait plus ou moins et André Orvin avait des ambitions assez importantes. Et des ambitions telles qu'il choisit de monter des pièces difficiles qui demandent beaucoup d'argent, qui demandent beaucoup de comédiens. Et donc Stoker va gérer tout ça. Et Stoker, en plus, doit s'occuper aussi de la carrière d'André Orvin. Il doit lire les pièces qui sont présentées au Lyceum. Il choisit les décors, il choisit les comédiens qui vont faire partie de la troupe. Il s'occupe de la promotion. On a fait passer encore comme ça, mais ça existait déjà. Il s'occupe aussi des tournées du Lyceum Théâtre. Donc c'est vraiment quelque chose de. Un travail colossal qu'il a sur les épaules. Et le miracle se produit, c'est que toutes les productions sont des succès gigantesques. Le théâtre gagne beaucoup d'argent. Et parallèlement, je me demande toujours comment il faisait, avec la charge de travail qu'il avait, il continue à écrire parallèlement. Il publie des petites nouvelles. Il se lance dans des romans, on n'en est pas encore à Dracula, mais quand même, il publie un petit peu. Et voilà le fameux Lyceum Théâtre de Londres. Et donc, à l'intérieur de ce théâtre, André Orvin avait décidé de réintroduire une tradition qui existait depuis de nombreuses années et qui était tombée en désuétude, c'est de créer, de remonter la compagnie de Biftec ou le Biftec Club. Alors, ce Biftec Club, en fait, c'était une salle qui était dans le foyer du théâtre et dans laquelle se retrouvaient les personnalités de passage à Londres. Après le spectacle, les gens se retrouvaient, ils mangeaient une pièce de viande avec les acteurs. Et en fait, toutes les grandes personnalités qui étaient de passage à Londres, que ce soit des acteurs, des scientifiques, des hommes de lettres, se rencontraient au Biftec Club. Et c'est comme ça que Bram Stoker a rencontré des gens qui ont été importants pour l'écriture de Dracula. Alors ça, un petit passage, c'est la maison où Bram Stoker et Florence se sont installés à Londres, se sont arrivés en 1918. C'est une maison dans Chelsea, à Chigney Walk, qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut voir. Alors, il n'y a pas de plaque dessus, mais on sait que c'est la maison. Ça, c'est, je m'excuse, je fais des allers-retours, mais je voudrais quand même vous montrer les photos. Ça, c'est le premier livre de fiction que Stoker a fait, dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel il y a cette fameuse nouvelle qui est inspirée par sa mère. Et ça, c'est une comédienne qui s'appelle Hélène Terry et qui fait également partie du Lyceum Théâtre. Alors, dans ce Biftec Club, Stoker va rencontrer deux personnes. Il va rencontrer un savant qui s'appelle Arminius Wanbury, qui était un orientaliste et qui va lui donner lui raconter en fait des légendes des pays de l'Est, des légendes sur les vampires. Et il va rencontrer également j'essaie de vous trouver, non, je suis désolé. Il va rencontrer un autre personnage important dont Jean-François parlait également tout à l'heure, qui est Richard Burton. Richard Burton était un type très, très sulfureux. On l'avait accusé d'être drogué, d'être homosexuel, d'être agent secret. On supposait même qu'il avait mangé de la chair humaine au cours de ses voyages en Afrique. Enfin bon, c'était un personnage très, très étonnant. Et en même temps, c'était un fin lettré, puisqu'il avait traduit les Mille et une nuits en anglais. Il avait également écrit des livres, enfin en tout cas un livre de nouvelles sur les vampires. Et donc, il s'est inspiré de ce personnage, entre autres, pour la description physique de Dracula. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est qu'en 1888, il y a eu un fait divers épouvantable à Londres. C'est la fameuse affaire Jack l'Éventreur qui a défrayé la chronique pendant, je crois, 6 semaines. Et quand on analyse le phénomène, on est complètement dans l'histoire de Dracula. C'est une entité qui sort de nulle part, qui tue, qui assassine de façon épouvantable et qui redisparaît derrière. On n'arrive jamais à cerner. Et il est clair, à mon avis, que Stoker a été inspiré, en tout cas influencé, plus ou moins consciemment, par cette histoire. Parce que c'est vraiment l'ambiance de Dracula. Ce que Londres a vécu pendant ces 6 semaines, c'est exactement ce que Stoker raconte dans le roman. Et donc, parmi les influences, donc je vous disais, il y a cette affaire Jack l'Éventreur, il y a les rencontres avec Arnius Van Berry et avec Richard Burton, et il y a aussi les voyages qu'il a fait. Alors, à une époque, il prenait des vacances à Whitby, qui est une adorable petite ville dans le Yorkshire. Donc, comme dit Jean-François tout à l'heure, il a appris là-bas l'existence de l'affaire du Mitri, ce bateau russe qui était arrivé en Angleterre sans passagers. Et donc, il a compilé un petit peu toutes ces infos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le roman, on se rend compte que tous les personnages importants du livre correspondent à des personnages réels dans la vie de Stoker. Déjà, le premier personnage qui rentre en ligne de compte dans l'histoire, c'est Jonathan Harker. Jonathan Harker, c'est Stoker lui-même. Dracula, c'est Henry Irving. Nina, c'est... Non, Henry Irving, oui.
Mais ok, il a quand même donné des traits de Richard Burton.
Alors, Richard Burton, c'est les traits physiques, la description de son visage, parce qu'il avait une barbe, il avait des dents proéminentes, et ça ressemble au portrait qu'il donne de Dracula au tout début du roman. Effectivement, au fil de l'histoire, le portrait change puisqu'il rajeunit. Mais les premières visions qu'on a, les premières descriptions qu'on a de Dracula correspondent à Richard Burton et aussi à quelqu'un d'autre. Ça correspond aussi à Walt Whitman. Walt Whitman était le grand poète américain le plus connu de l'époque et Stoker était un grand fan. Et quand il s'est occupé donc de la troupe du Lyceum Théâtre, il a organisé une première tournée aux États-Unis. Et il a profité de cette tournée pour rencontrer enfin Walt Whitman, pour lequel il avait une véritable vénération. Il lui avait d'ailleurs écrit quand il était étudiant, c'est vous dire à quel point il était porté par cette passion. Et ils ont correspondu, pas tout de suite, parce que Walt Whitman n'a pas répondu au premier courrier de Stoker, mais il a répondu au second, et ils ont échangé pendant plusieurs années des lettres. Et donc... On retrouve également dans la description du portrait de Dracula âgé, on retrouve aussi la description de Walt Whitman qui avait les cheveux blancs, longs, qui avait une grande barbe, qui avait aussi des dents un peu proéminentes. Enfin, c'est vraiment la même galerie de portrait des deux hommes. Donc, Stoker donc, ça a continué à la fois parallèlement à s'occuper du théâtre, mais aussi à publier. Alors, il a publié des romans qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Il a publié trois romans avant Dracula qui ont eu un succès d'estime, mais pas un succès populaire du tout. Quand Dracula est sorti, alors c'est très étonnant parce que on a l'impression que au moment de la publication de Dracula, Stoker est à l'apogée de sa vie. Sur tous les plans. Et petit à petit, après l'apparition de Dracula, tout s'effiloche, tout commence à s'effondrer. Par exemple, l'année suivante, donc Dracula sort en 1897, en 1898, il y a une véritable catastrophe qui se produit. C'est qu'une nuit, les locaux qui abritaient les décors et les costumes du théâtre partent en fumée, il y a un incendie. Et on ne peut rien sauver. Et alors, double catastrophe, c'est que Henry Irving, sans en référer à Bram Stoker, pour des raisons de l'économie, avait réduit la police d'assurance. Donc, du coup, ils n'ont pas eu de remboursement. Mais, troisième catastrophe, ça s'est produit un mois avant le départ d'une nouvelle tournée américaine du Lyceum. Et donc, ils ont été obligés d'annuler la tournée parce qu'ils n'avaient plus de théâtre, ils n'avaient plus de costumes. Donc, ils ne pouvaient plus travailler, ils ne pouvaient plus jouer. Et donc, à partir de là, les caisses du théâtre se sont peu enflouées. Les nouvelles pièces qu'ils ont jouées ont eu de moins en moins de succès. Donc, vraiment, c'est la fin, finalement, d'une carrière brillante. Les livres que Stoker sortait n'avaient pas de succès particulier. La mère de Stoker est morte en 1901, donc 4 ans après la sortie du livre. En 1902, le Lyceum a été obligé de fermer parce qu'ils ont fait faillite. Donc, vraiment, on a l'impression que l'arrivée de Dracula sonne la mort de Stoker, puisque tout l'entourage, finalement, va disparaître. Donc, la mère vient de mourir. Un des meilleurs amis de Bram Stoker, qui était Oscar Wilde, meurt en exil à Paris. En 1902, donc, je vous dis la fin du Lyceum. Et en 1905, Henry Irving meurt à son tour d'une pneumonie. Et Stoker va être très très marqué par ça. Il va faire il va être terrassé par une. Comment appelle-t-on ça, hein? Un récit. Donc il va être complètement réduit à néant pendant plusieurs semaines avant de récupérer. Heureusement pour lui, bon, il va se remettre un petit peu au travail, il va se mettre à écrire de plus en plus, parce que ses revenus réguliers n'existent plus, puisque le théâtre n'existe plus non plus. Donc il va être obligé d'écrire beaucoup plus qu'avant pour gagner sa vie. Et ça explique en partie le fait que les livres de fiction, en tout cas, qu'il va publier après la mort d'Henry Irving, vont être de moins en moins intéressants, parce que pour des raisons financières, il a intérêt à rendre de la copie, et donc forcément, il travaille moins. Dracula est un chef-d'œuvre parce qu'il a eu 7 ans pour le peaufiner, là maintenant, il n'en a plus les moyens. Donc malheureusement, les derniers ouvrages de Stoker vont pas être du niveau du reste. Et en 1912, et bien malheureusement, Bram Stoker meurt à son tour, il est rongé à la fois par la goutte et par ce qu'on appelle le mal de Bright. Le mal de Bright, c'est une insuffisance rénale qui se soigne aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait rien pour soigner ou pour amoindrir le mal. Donc, Stoker va mourir pratiquement épuisé par cette maladie. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur ce que Jean-François vous a raconté tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, c'est que Bram Stoker, avec Dracula, a vraiment, enfin, dans le sens, il a créé un genre, la quintessence du roman de vampire. C'est-à-dire qu'à partir de Dracula, tous les codes imparables du genre vont être fixés. Et ça va durer pendant des années. Et il y a quelques romans par la suite qui vont avoir une importance, peut-être pas aussi colossale que Dracula, parce que la preuve, on parle encore aujourd'hui de Dracula, et tous les ans, il y a une multitude de livres qui font référence à Dracula et de films. Mais il y a d'autres romans qui vont marquer un moment important de la publication du roman de vampire. Après Dracula en 1897, pour moi, le roman phare de l'époque moderne, c'est Je suis une légende de Richard Matheson, qui sort en 1954. Alors, curieusement, les codes que Stoker avait imposés dans Dracula sont respectés dans Watson, sauf que ça ne se situe plus dans un château gothique, mais ça se situe dans le quotidien contemporain, ça se situe aux États-Unis. Et c'est la première fois qu'un roman d'importance se passe vraiment à l'époque moderne. Alors, il y aura quelques adaptations au cinéma qui ne sont pas toutes très bonnes. Je crois, personnellement, j'ai vu que la dernière, malheureusement, c'est la plus catastrophique. Mais je crois que le film le plus intéressant est sorti en 1964, ça s'appelle Je suis une légende, c'est avec Vincent Price. Il y a eu une autre version dans les années 70 avec Charlton Heston, qui s'appelle Le Survivant, qui était, paraît-il, moyenne.
Très éloigné du roman, mais qui tient la route par rapport à ce qu'on a vu après.
Et alors la dernière, qui est une catastrophe envenante, c'est « Je suis une légende » en 2007 avec Will Smith. Donc, il faut s'en passer.
Tu as une version chez Asylum aussi en même temps, un petit budget avec Marc Dacascos, mais qui ne vaut rien du tout.
Donc voilà, ça c'est un grand roman vampirique. Et il faudra attendre 1974 pour avoir un autre roman qui va aussi marquer, parce qu'il va se démarquer justement de tous les autres. C'est le fameux Entretien avec un vampire de Dan Rice, qui va être porté au cinéma avec Tom Cruise. Alors là, on revient au sulfureux avec, avec le roman Dan Rice, parce qu'on revient justement à ce qui a fait le succès de Carmilla. C'est une histoire d'homosexualité. Carmilla, c'est une histoire entre deux femmes, et Entretien d'un vampire, c'est une histoire entre deux hommes. Mais le roman va vraiment être important, il va relancer à sa façon le mythe du vampire. C'est très étonnant dans la littérature vampirique, c'est que c'est cyclique, même dans les films de vampires. Alors, on peut dire qu'à peu près tous les 5 à 10 ans, un film très important sort, ou un roman, et qu'on a l'impression que ça s'assouplit, et finalement pas du tout que ça repart. Il y a toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant. Alors, il y a des tentatives étonnantes, des mélanges, par exemple, de romans de vampires et de science-fiction. Alors, j'en ai noté deux qui sont assez sympathiques. En 1982, il y a Vampire de Scott Baker. Alors, un vampire, c'est une entité qui est un mélange de vampires et d'humains. Et le vampire a une seule fonction dans la vie, c'est de se débarrasser des vampires. Tu peux courir, mais bon. Et il y a un autre roman de science-fiction qui est assez intéressant, qui casse un peu les codes, c'est L'Extase des vampires de Brian Stapleford. Alors là, les vampires sont des extraterrestres qui cultivent les humains pour boire leur sang. Alors c'est un roman très drôle, très rigolo à lire. Et alors j'attends la version cinématographique, parce que ça risque d'être assez passionnant. Alors là, évidemment, le roman qui a, enfin, du moins la série qui a bousculé les codes, c'est évidemment Twilight de Stephanie Meyer en 2006, qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Big Five. Je pense que quelqu'un va nous en parler en détail tout à l'heure. Et je pense qu'à mon sens, le plus grand roman de ces dernières années, c'est le roman de Lindquist qui s'appelle Laisse-moi entrer. Et qui, quelque part, est un retour au code traditionnel, parce que, autant dans la mythique, tous les codes ont changé, les vampires ne craignent plus le soleil, ils sont végétariens, enfin, ils sont vraiment marres par rapport à ce qui nous fait plaisir. Là, dans Laisse-moi entrer, on revient dans le sérieux. C'est vraiment un roman tragique, un roman grave, un roman noir, et en plus qui est très étonnant, parce que les deux personnages principaux sont deux enfants. Et c'est toujours plus angoissant en littérature d'utiliser des enfants dans des histoires de ce type. Et le roman, non seulement est passionnant et bien écrit, mais ce qui est très curieux, c'est que les deux films qui ont été adaptés du roman sont vraiment excellents. Le premier, c'est Morse, de Thomas Alfredson, de 2008. Alors, ce qui est aussi très étonnant, ce qui est très rare, c'est que le film est sorti en 2008, et deux ans après, il y avait déjà un remake qui était produit par la société Hammer, la Hammer Film, qui s'est rendue célèbre dans les années 60, justement par toutes les adaptations des romans de Dracula. Et donc, c'est un beau retour aux sources, à la fois en littérature et au cinéma, parce que quelque part, la boucle est bouclée. Mais bon, j'espère que on aura d'autres bonnes surprises par la suite, puisque, comme je vous disais, il y a toujours un moment où les choses reviennent, où un grand roman arrive, ou un grand film. Donc, on est en droit d'attendre ça. Et je voulais vous signaler quand même un roman que j'aime beaucoup, qui est un roman de Jean-Pierre Audarcier, qui s'appelle Le Dernier Vampire. Et c'est peut-être aussi le roman qui va permettre de relancer la machine pour d'autres exploits de Xavier Audran. Je voulais vous faire part d'une petite nouvelle qu'on m'a envoyée. Je crois que c'est une dépêche AFP. Je vais vous raconter ça. C'est très court, mais c'est assez drôle. Je vais vous trouver ça. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Alors, c'est une dépêche AFP qui est sortie la semaine dernière, il y a 3-4 jours. le conseil municipal de Bagina Basta a émis un avertissement de santé publique après que la maison légendaire du vampire Sava Savanovic se soit effondrée. Le vampire est le monstre le plus célèbre de Serbie et le maire du village prend les choses très au sérieux, tout comme ses concitoyens qui sont terrorisés. Les gens sont inquiets, tout le monde connaît la légende de ce vampire et la pensée qu'il soit désormais sans abri et à la recherche d'une nouvelle maison au sein de la ville. Sans oublier qu'il pourrait faire des victimes. Nous sommes tous effrayés, a-t-il ajouté, face à la menace, et le conseil local a suggéré aux habitants de mettre de l'ail à leurs fenêtres et leurs portes afin que le vampire reste à distance. Je conseille un peu au
Écoutez, je crois que nous avons, nous respectons à peu près parfaitement les horaires. Donc, des questions pour Alain Pozzuoli. Ne faites pas croire que tout le monde a envie de la pause et d'aller boire un café.
Alain, j'ai pas compris le nom de l'auteur que tu as cité là, quand tu dis qu'il a vraiment est revenu au classique.
Il a rencontré
C'est
Lindqvist. C'est un auteur suédois.
Oui.
Qui s'appelle, je vais vous dire ça, John Avid Lindqvist. Et le morse est sorti aux éditions Télémaque.
Et j'ajouterais qu'il a aussi écrit un roman de zombies absolument remarquable.
Ça, je ne savais pas.
Qui est sorti aussi chez Dell.
J'ai bien fait de venir.
Bien, d'autres questions ?
En fin de compte, Bram Stoker a tellement compliqué de son succès de Dracula.
Il n'a pas eu de l'histoire,
mais il ne l'a pas connu.
Il n'a pas eu, il l'a pas connu.
Il l'a pas connu parce que le succès est parti en fait du théâtre.
Je crois d'ailleurs que Bélène Lugosi a d'abord interprété Dracula au théâtre, et c'est pour ça qu'il a été choisi ensuite pour l'interpréter dans le monde.
Est-ce que le scénario du film de Brody
D'autres questions ? Non, donc je crois que là vraiment tout le monde. Jacques-Fèvre
d'Arcier. Je vais simplement signaler un aspect du livre de Madame Chassé-Pénuit, dont il a peu parlé, et en fait, qui met en rapport la vie de Bram Stoker et mon livre. Et en fait, Bram Stoker considère qu'il a été séduit par Irving,
ouais.
Et en fait, il y a une thématique homosexuelle qui est plus ou moins assumée ou pas assumée par Bram Stoker, mais en fait, le pouvoir de séduction de Dracula, et ce côté négatif, ce côté pervers, ce côté prédateur, ça vient vraiment de la vision que Bram Stoker avait de Irving. Ça, c'est un des aspects plus intéressants du livre.
D'ailleurs, l'anecdote que j'ai oublié de citer, Bram Stoker donc a écrit son roman, a écrit Dracula, mais à l'origine des choses, c'était une pièce qu'il voulait écrire. C'était une pièce qu'il voulait écrire sur exactement ce thème-là, qu'il voulait faire représenter au Lyceum, avec Henry Irving dans le rôle principal, dans le rôle de Dracula. Donc il avait écrit, si vous voulez, une sorte de synopsis, et en 1897, au moment de la sortie du livre en librairie, il organise au Lyceum une sorte de mise en espace, une sorte de mise en scène qui durera 4 heures, hein, avec les familiers du Lyceum, c'est-à-dire Alan Terry et d'autres, dans les rôles principaux, et puis un parterre de personnes choisies. Ce n'est pas du tout une représentation officielle, c'est une représentation privée, intime, pour voir ce que les gens en pensent. Et le jugement d'Henry Irving va tomber à la fin, il va dire « dreadful », ce qui veut dire « horrible ». Et donc, Bram Stoker, il a repris son manuscrit, je ne sais pas s'il l'a déchiré ou l'a mis dans un tiroir, mais grosso modo, il va abandonner complètement son idée d'en faire une pièce. Alors maintenant, est-ce qu'il y avait de la part de Henry Irving une forme de jalousie devant ce Bram Stoker qui finalement devenait un personnage public, peut-être pas autant que lui, mais enfin, quand même, il y a une forme de rivalité, premièrement, ou bien est-ce qu'il s'est reconnu, dans le personnage de Dracula, c'est possible. En tout cas, bon, l'ascension a été nette. La pièce a été désavouée par son premier commanditaire, si je puis dire.
Par contre, il y a une anecdote amusante, c'est que le personnage grâce à qui Dracula a été adapté au théâtre, Hamilton Dean, c'était un comédien qui avait été choisi par Bram Stoker pour faire partie de l'Axiom Théâtre. Et quand le livre est sorti, Hamilton Dean a été tout de suite subjugué par le livre. Mais il était tellement impressionné par la personnalité de Bram Stoker qu'il n'a jamais osé lui dire, et il n'a jamais osé lui suggérer d'adapter le Dracula au théâtre. Et donc, il a fallu qu'il y ait l'affaire Murnau et que Stoker soit mort pour qu'il ait le courage de rencontrer sa veuve et de lui demander l'autorisation de l'adapter lui-même.
Voilà. Tu n'as pas parlé du bouquin de Dacre Stoker en cours, de la fameuse suite de...
Oui, parce que je n'ai pas considéré que c'était une date marquante.
C'était le moins qu'on puisse dire.
Oui, on ne sait pas, excellent.
C'était quand même une série d'anecdotes intéressantes, quand même, sur le personnage du flic qui n'a pas utilisé.
Oui.
L'histoire avec Milton Dean, ça fait partie du... Il le raconte dedans, là, cette histoire.
Tu n'as pas parlé non plus du journal intime de Bram Stoker.
Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Récemment, on a retrouvé le journal intime de Bram Stoker qu'il a tenu quand il vivait à Dublin. Mais en fait, quand vous le lisez, vous n'apprenez absolument rien, parce que ça revient à faire la liste des courses qu'il avait à faire le lendemain. Ça n'a aucun intérêt du tout. Il y a des prières, il y a des... Mais on n'apprend rien sur sa vie. Donc, à part vouloir gagner un petit peu de sous, je ne vois pas l'intérêt.
Prince Stoker, mon petit boudin.
Je pense que c'est ça. Il aurait été ravi de venir à Elvin.
Bien. En attendant, je vous propose de faire une courte pause. On reprend à 17h. Alors, je crois que le café, le jus d'orange, etc., vous pouvez aller reprendre des forces. Et puis, donc, je vous demande qu'on reprenne. On reprendra à 17h pile si on veut respecter le timing et pas se faire les gros yeux par un frère Richard.